Ça va pas être trop long, ça, non? Ça va aller?
Moi, je me demandais si ça, là...
France Culture.
Ah, Costa, peut-être un peu trop long.
Non, pas tellement.
Sinon, je peux dire que ça.
D'accord, ok.
Le Book Club.
Et par rapport à ce que je voudrais en dire...
Allez. C'est très beau, de toute façon, c'est très beau.
Oui, c'est très beau. Après, je sais pas si je vais m'en sortir convenablement pour la lecture, mais...
Dans la bibliothèque de Bertrand Belin.
Je le prudent Berlioz, voilà, ok.
Marie Richeux.
Dans un texte publié par le journal Libération en 2019, le philosophe Paul B. Preciado dit des bibliothèques qu'elles sont des biographies matérielles écrites avec les mots des autres. Il ajoute que chaque relation amoureuse laisse derrière elle une bibliographie comme une sorte de trace ou d'héritage où l'on signale les livres que chaque amant a apportés à l'autre. Et c'est vrai, les bibliothèques que nous visitons, véritables portraits en creux de leurs propriétaires, nous parlent autant d'amour que de vie. Aujourd'hui, c'est le musicien, comédien, écrivain Bertrand Belin qui nous ouvre ses étagères littéraires. Beaucoup de piles, un classement qui m'est encore mystérieux. Préparez-vous à voir apparaître Natalia Ginzburg, un mystérieux roman d'été, l'art poétique d'Olivier Cadio et les cercles de Dante, entre autres. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
Merci beaucoup de faire entrer votre bibliothèque dans notre studio. J'espère qu'on fera une photographie de ce qui nous entoure.
Oui.
C'est pas mal.
J'espère que je ne vais pas vous apporter autant de désordre qu'il y a chez moi.
Non, c'est bien, moi j'aime bien le désordre, surtout en littérature et surtout avec des piles de livres. Alors avant qu'on entre dans votre bibliothèque, on commence ici toujours par un questionnaire relatif à la lecture, pour savoir une sorte de portrait en creux de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Le questionnaire commence par savoir si vous vous souvenez quand et si vous vous souvenez tout court avoir appris à lire.
Oui, je me souviens, je crois me souvenir, alors j'ai reconstruit ce souvenir, mais j'avais une maîtresse à l'école, au CP, Madame Lescouette.
Ah oui, donc vous vous en souvenez beaucoup.
Je me souviens de son nom, je me souviens l'avoir revue alors que j'étais adulte, qui marchait sur la plage un été, d'avoir souhaité lui échanger quelques mots avec elle, donc c'est quelque chose qui est marquant pour moi, parce que en dépit du fait que j'étais un élève certainement, je sais pas quel genre d'élève j'étais à cet âge-là, mais j'ai pas été un élève particulièrement remarqué ni remarquable. Mais néanmoins, j'étais plein de gratitude parce que j'ai quand même appris à écrire et lire avec cette dame. Donc oui, je crois me souvenir un petit peu d'abord d'écrire mon nom, d'écrire mon prénom, de tenir les lettres dans les lignes du cahier pour pas qu'elles dépassent. Oui, ça, je me souviens de ça. Ça, c'est le stade artisanal, le dessin des mots, quoi. Le moment où la question de grammaire, d'orthographe se pose dans un second temps. Il faut d'abord tenir le stylo dans la main, puis le manier. Ça, je me rappelle, oui.
Et c'était plaisant, quelque chose d'agréable?
Oui, je crois, parce que on a de la satisfaction quand on a l'impression d'avoir bien formé une lettre. Je crois me souvenir de ça, de regarder le cahier, de se mettre un peu en arrière et de voir que son S ressemble bien à un petit escargot comme ceux qu'on voyait dans la télévision. Les lettres, il y avait pas mal d'animations dessinées pour l'annonce des programmes avec les numéros 2, 1, 3, les quelques lettres abaissées. Je me souviens de ça et je me souviens quand je les voyais à l'écran de la télévision, je me demandais s'ils étaient conformes, si les miens étaient conformes à cette chose qui était donc validée par l'écran de la télévision.
Par l'écran et par la maîtresse.
Ouais.
C'est marrant parce que je vous parle lecture et vous me parlez tout de suite écriture, Bertrand Belin.
Ah oui, ouais. Vous m'avez demandé si je me souvenais d'avoir lu et je vous ai dit écrire. Ouais, ouais. C'est vrai. Appris à lire. Non, je me souviens pas. Je suppose que c'est un pas de deux, un peu, qu'on apprend un peu ça presque simultanément.
Absolument.
Je crois, j'ai aucun souvenir d'avoir dans la vie familiale passé quelques temps où on m'expliquait comment lire. L'école, je me souviens des cahiers, des gommes, de l'atmosphère de cette dame. Mais enfin, appris à lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai appris à lire d'un point de vue technique, savoir déchiffrer les lettres, l'alphabet, etc., la ponctuation. Mais après, pour mettre à profit ce savoir nouveau que j'avais, de savoir lire, bon, il se passait quelques années avant que vraiment je me dise que ce don, cette chose, était maintenant à moi, que je pouvais m'en servir pour ouvrir des livres et les lire.
Quoi. Mais d'ailleurs, c'est un moment important, peut-être ce moment où on apprend à lire autrement qu'apprendre techniquement.
Bien sûr.
Pour tout le monde, il y a des moments où on découvre que c'est possible de lire, qu'il y a un monde oui. qui s'appelle le monde des livres.
Absolument, oui. Et ça, c'est, il doit y avoir, je ne sais pas, un certain nombre de circonstances, la rencontre parfois d'événements contraires ou qui se rejoignent pour rendre possible le fait de passer à la lecture. Mmh. Ça y est, on peut y arriver. Pourquoi ? Ben, dans mon cas, c'est simple, hein, c'est par amour que j'ai commencé à lire parce que j'ai lu des livres qu'on m'avait remis dans les mains, des conseils de lecture lorsque j'étais adolescent. Un peu grand adolescent, hein, vers 16-17 ans, quoi. On dire, tu devrais lire ça. Bon, là, je pouvais pas m'échapper. Puis surtout, j'avais envie de montrer que je suivais les conseils qu'on me donnait, parce que je voulais me montrer digne de cet intérêt, quoi. Mais ce que les professeurs, auprès d'un élève comme moi, n'avaient pas réussi vraiment à faire. Enfin, je leur relance pas la pierre. Ils m'avaient proposé des lectures sûrement formidables, mais j'arrivais pas à trouver le temps ou trouver les nerfs, enfin, la condition nerveuse pour lire, quoi. C'est ça, en fait, surtout, la condition nerveuse. Il faut être dans des conditions physiques aussi.
Lesquelles, par exemple, aujourd'hui, si vous deviez décrire les conditions qu'il faut réunir pour que vous puissiez lire ?
Eh bien, une certaine, quand même, sinon une tranquillité d'esprit, au moins la possibilité de s'isoler du cours des choses ordinaires, qui charrie des troncs d'arbres, des vieilleries, des vieux frigos dans son lit, et des choses qui nous absorbent, qui nous attirent. Il faut régler un certain nombre de problèmes. Comment je vais payer mon loyer ? Comment je vais faire ceci, cela ? J'ai eu autant d'années comme ça que d'années de plus tranquilles dans ma vie jusqu'à présent. Je me souviens qu'il aurait été difficile, voire incongru,
d'ouvrir un bouquin au moment où c'est pas possible de payer le loyer.
Je pouvais pas, parce que j'avais trop de choses à penser, en fait. Voilà.
Ça dit aussi quelque chose, et qui est une question que je me pose depuis le début de l'ouverture de cette nouvelle émission, c'est que, est-ce que le peuple des livres est un peuple trop homogène ? Est-ce qu'on va réussir à entendre d'autres paroles dans cette émission ? Est-ce qu'il y a une condition aisée au peuple des livres ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, je suppose. D'ailleurs, dans quelques textes de Lucia Berlin, dont il sera question tout à l'heure, à un moment, cette question se pose, parce que c'est une écrivaine qui avait de nombreux enfants à sa charge, autour d'elle, qui était non seulement écrivaine, mais lectrice également, bien sûr, comme souvent. Et la question du temps, du lieu...
La possibilité de lire.
La possibilité à la fois géographique, nerveuse, temporelle, etc., de lire, c'est quand même quelque chose, quoi. Mais il suffit de pas grand-chose, parce que en fait, c'est comme mettre le pied à l'étrier. Quand on a vu ce que la lecture pouvait faire sur soi, comment on pouvait justement apprendre à tenir un peu au loin quand même les accros et les injures de la vie quotidienne, bon, on sait qu'on peut trouver dans les livres justement ce temps et cette géographie et cet espace. Il n'est pas en dehors, il est dans le livre, il faut aller le chercher. Et quand on a vécu ça une première fois, on s'en souvient, et alors on peut y retourner plus facilement.
Est-ce qu'il existe une photographie de vous, tout âge confondu, où vous avez un livre à la main ?
Pas à ma connaissance, non. J'en ai pas le souvenir, je ne crois pas, non.
Vous lisez où et à quelle heure de préférence ?
Le matin. Le matin, des potrons minets. C'est là où j'ai l'esprit le plus clair, et puis la vue aussi qui est en assez bonne, voilà, bonne dynamique. Le soir, dans les transports. Et puis quand j'ai le temps, eh bien, je me réserve des journées entières de lecture chez moi, dans un fauteuil que mes amis m'ont offert pour mes 40 ans, je crois, 45 ans, je sais plus. Ils m'ont offert un fauteuil que j'avais dit que c'est dommage, j'avais pas de fauteuil pour lire. Et maintenant, j'en ai un. Je l'ai choisi. Mes copains ont dit, OK, prends celui-là. Et puis, et donc j'ai maintenant un fauteuil, et c'est tout ce qu'il me fallait, quoi. Donc je m'assois, je dispose les choses autour de moi, de façon à pas avoir à me lever toutes les 5 minutes. J'ai une petite lumière, quand la nuit tombe, je peux allumer la lumière en tendant le bras, et puis j'ai des accoudoirs. Enfin, c'est des choses très simples. Hein. Et puis les livres, voilà. Parfois, je suis obligé de me reposer un peu parce que j'ai les yeux qui fatiguent, mais en dehors de ça, c'est très confortablement installé que je lis.
Et vous êtes un homme heureux quand vous lisez ?
Souvent, parfois concentré. Heureux, oui, si on considère qu'on est entièrement dans le temps présent, dans le présent de la lecture, que l'écrivain a réussi à nous projeter, ce qui est souvent le cas, ce qui est quand même souvent le cas. Tous les livres que j'ai ouverts, y compris les livres qui m'ont moins plu, ou parfois même qui me semblaient sur le moment mauvais, alors, en dépit du fait qu'on les abandonne peut-être, mais néanmoins, ça fonctionne, la lecture. Ça passe par les yeux et le cerveau, c'est quelque chose qui se fait quand même, quoi. Et donc ouais, je suis heureux, je suis dans à la pointe du présent quoi, là, dans mon instant, je me suis oublié un peu quand même. Donc ça c'est ça qui me rend heureux peut-être de m'oublier, je pense. Quand il y a plus de choses qui fâchent, qui soient trop proches quoi.
Est-ce que vous cherchez quelque chose dans les livres, Bertrand Belin ?
Oui, je cherche quelque chose dans les livres. Du temps de vie supplémentaire, comme si on pouvait latéralement augmenter son temps de vie et non pas sur la flèche du temps, mais d'un point de vue latéral, quoi. Avoir comme ça, ouvrir des espaces d'existence et d'expérience, parce que quand on est là cet après-midi, j'étais au Nouveau-Mexique avec un type qui arrêtait pas d'offrir des rosiers à quelqu'un. J'étais en colère avec le personnage qui se voyait offrir ses rosiers, qui était trop nombreux. J'ai l'impression de l'avoir vécu, évidemment, on sait bien que non, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas été dans ce livre ? Tout à fait autre chose, peut-être des choses qui m'auraient apporté un bénéfice, mais pas en termes d'expérience comme ça, inouïe, avec une certaine exotisme aussi, des contrées, des façons de vivre, des choses. Oui, c'est ça, c'est faire avoir plus de vie, avoir une vie latéralement aussi.
Ouais, quoi. Je vois, et une forme de creusement quoi du temps.
Oui, c'est ça, qui s'élargirait, simplement comme un abscisse ordonné, la flèche du temps verticale, et puis latéralement dans la ligne horizontale, des expériences horizontales qui seront pas comptabilisées dans du vieillissement biologique, à part quelques heures de lecture, mais on va beaucoup plus vite au Nouveau-Mexique en ouvrant un livre que par avion, quoi.
Est-ce qu'il y a des livres qui vous attendent depuis longtemps, avec qui vous avez rendez-vous ?
Oui, il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs, mais il y en a un, par exemple, c'est Les âmes mortes de Gogol qui m'attend depuis longtemps, je sais, le roman théâtral de Bulgakov m'attend aussi. Il y aura un moment, il y a toujours eu un moment pour moi, ça vaut pour d'autres choses aussi, pour le cinéma et la musique.
Mais vous savez déjà ?
Ah, je sais déjà que j'ai le souvenir d'une résistance, j'ai le souvenir d'un essai, d'une tentative qui n'a pas pu aboutir à ce moment-là. Pour quelle raison exacte ? Parce que j'avais pas les outils, je comprenais pas ce que j'avais sous les yeux, je pédalais un peu dans la choucroute, comme on dit. Et puis passer 100 pages de perdition comme ça, on se dit bon, je crois que c'est pas pour moi. Mais j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres livres qui m'avaient déjà fait cet effet et j'ai pu voir qu'il s'agissait aussi d'une rencontre et d'un moment, et que 2 ans après...
Vous pensez à quoi, par exemple ? Un livre qui se serait ouvert, quoi, après être resté vraiment fermé.
Par exemple, la Divine Comédie, par exemple, de Dante, ou y compris celui-ci, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est pour ça que j'ai souhaité en parler aujourd'hui, justement pour cette raison particulière qu'il s'agit, avec les livres, parfois de rencontres, en dehors du fait que parfois on est peut-être amené à lire obligatoirement des choses, ça dépend du métier qu'on fait, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, il n'y a rien qui, en général, m'oblige à lire des choses particulièrement. Et puis la fois où tout à coup on arrive à ouvrir la Divine Comédie et être embarqué, avoir mis un pied dans l'eau et cette fois-ci la trouver bonne et puis hop, être embarqué jusqu'au bout, si bout il y a, voilà, c'est une expérience inouïe quoi, et on peut du coup se rassurer que notre idiotie ou notre bêtise n'est pas trop en cause en fait dans la première claquement de porte et résistance, ouais, que c'est autre chose aussi qui se joue, c'est une disposition, une humilité, une humeur, quelque chose.
Il y a une question dans le questionnaire qui se demande quel livre vous aimeriez offrir à la personne que vous étiez à 20 ans et que vous n'avez pas lu à ce moment-là, et qui peut-être aurait été bien, sympathique, agréable, utile, que vous eussiez lu.
Je crois que j'aurais offert Caisse, le recueil de Christophe Tarkos, Caisse, que j'ai découvert moi à 40 ans, qui m'a été offert par Armel Ostiou, un camarade cinéaste, qui m'a offert ce livre à mon anniversaire. C'était il y a 13 ans, je me rajeunis. Non, c'était il y a 13 ans.
Et là, il vous a dit quelque chose de ce grand poète Christophe Tarkos ?
C'était dans son geste. C'était ça. Tiens, caisse. Ce qu'il m'a dit ou pas dit, c'est que j'ai compris que c'était qu'il avait choisi pour moi, quoi. Et j'ai vu Armel Ostiou. Je l'ai croisé par hasard dans la rue il y a 2 jours ou 3 jours. Et je l'ai encore remercié de ce cadeau. Et C'est vrai que c'est un livre qui compte beaucoup pour moi. Enfin, un livre, bien sûr, parce qu'il a ouvert tout le continent antarcosien, si on veut. Mais je crois qu'à 20 ans, si il y avait eu une façon de dire quelque chose qui aurait retenu mon attention, je pense que Tarkos aurait retenu mon attention à l'époque, à 20 ans, où je lisais plutôt Victor Hugo, la poésie du 19e siècle, les poètes du 19e siècle, hein, les grands, hein, ceux qui sont les plus connus. Et avec un souci d'instruction, mais avec parfois un certain plaisir aussi, voire même des larmes. Hein. Je me souviens lire Victor Hugo, et tout ça, tard le soir, je relisais ça à des amis. « Attends, il faut que je te lise ça, c'est trop beau !» C'était vraiment très... ça me remplissait d'émotions. Mais il a fallu du temps avant qu'une langue comme celle de Tarkos ou d'autres, un peu plus de temps avant qu'elle vienne me frapper. Je crois que, oui, ça, j'aurais bien aimé me l'offrir. J'aurais réagi, je crois.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent. Avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre. Je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombes. Un oiseau, cui, 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 cui.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Bertrand Belin, Marie Richeux.
Bon, alors, elle ressemble à quoi, cette bibliothèque Bertrand Belin ?
Eh bien, elle est morcelée, hein, on peut dire. J'aimerais bien avoir un grand mur comme certaines ont à la maison.
Et pourquoi ?
Bien ordonné. Bah, parce que peut-être ça me reposerait les yeux. Je me dirais, je sais où sont les choses. Mais en réalité, je sais très bien où sont les choses.
Bah oui.
Je sais où se trouve chaque chose chez moi. Un élastique, aussi bien que tel livre, ou une chaussette. Je sais où c'est. Je sais toujours trouver. Pour moi et pour les autres. Mais alors, elle ressemble à quoi ? C'est des piles. Ce sont des piles de livres. qui sont dans des parfois des équilibres par nature instables. Mais il y a plusieurs livres de poche, puis il y a un gros livre d'art qui est beaucoup trop gros, puis après il y en a des plus petits, donc ça chancelle. Il faut faire attention quand on ouvre les fenêtres que tout ça parte pas en avalanche. Ils sont coincés, il y en a au-dessus de la porte, au-dessus des meubles, il y en a au pied de mon lit, il y en a autour de la stéréo, quoi. J'ai une stéréo chez moi. Voilà, donc oui, ça ressemble un petit peu. Alors, quand j'ai des papiers importants, des choses, vous voyez, des textes ou des scénarios, des textes des partitions, je les glisse aussi dans le livre, donc ça rend un peu le tout un peu hirsute, comme ça, ouais. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Parfois, il y a des livres que j'ai envie de garder un peu à la surface des piles, soit parce que je les ai récemment lus, soit parce que le matin, en prenant mon café, j'aperçois au bas d'une pile un livre que j'ai envie de revoir. Peut-être pas toujours de lire, mais
si. Mais c'est les préférés, ouais. Ceux qui sont en ce moment à la surface.
En général, c'est soit les derniers lus, soit les préférés. Et les préférés, bon, ils me repassent dans les mains 3-4 fois dans l'année, mais pas intégralement, mais vous voyez, c'est ça, quoi.
Donc vous avez plutôt un livre, faites-nous rêver, vous avez plutôt un livre attrapé sur une pile de bouquins dans votre appartement ouvert lors du premier café que des sites d'information continue sur votre téléphone portable ?
Absolument, ça oui. Ah non, mais moi j'achète le journal tous les jours, donc je vais au kiosque, j'achète 2-3 journaux, je vais au café, je prends un café, je lis le journal, voilà, c'est ma vie quotidienne. Quand je suis pas en tournée, bien sûr, quand il y a de la presse pas loin, mais je suis pas abonné j'ai des demandes, ils me demandent, ils veulent que je les rejoigne, hein. Ils insistent. Pour l'instant, j'y suis pas allé. Parce que je sais aussi que j'achète par exemple, voilà, Le Monde, Libé, les journaux que je lis. Bon, alors ils m'envoient des publicités pour que je m'abonne, mais je vous dis, mais je leur parle. Mais non, puisque je vous dis que je vais chercher mon journal.
Est-ce que tous vos livres sont là, Bertrand Belin, dans cette maison ?
Non, ils ne sont pas tous là, parce que à l'occasion de mon dernier déménagement, ne sachant où j'allais atterrir, j'ai tout mis dans des grands sacs, des grands sacs en tissu à carreaux, vous voyez. Et j'avais ces grands sacs-là que j'ai déposés dans mon studio, à Montreuil, où je fais de la musique. Qui est une pièce qui fait comme à peu près grande chez moi, c'est comme un studio, 25 mètres carrés, quoi. Et quand j'ai retrouvé un logement, je suis allé dans mon studio, puis j'ai choisi parmi tous les livres ceux que je voulais avoir chez moi. Donc ça fait une petite moitié, quoi.
Et à quoi répondait ce choix ?
Les plus anciens, ceux que je... Il y a des livres que j'ai depuis très très longtemps, depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc ceux-là, ils sont devenus des compagnons en tant qu'objets. Parfois, je peux les refeuilleter, mais même sans les refeuilleter, je pense que je les garderai jusqu'au bout. Mais vous savez, vraiment, comme ils renvoient la lumière avec leur bleu ou leur jaune, avec la qualité du papier, est-ce qu'il est abîmé, pas abîmé. Les livres abîmés, quand je sais que c'est moi qui les ai abîmés, bon, c'est des traces, j'aime bien les avoir autour de moi, c'est, vous voyez, c'est pour faire un logis, quoi. C'est
exactement pour... ce que j'allais dire dans le questionnaire du début. D'habitude, il y a une question qui relie le livre et la maison. Ouais. Et qu'est-ce qui fait maison ? J'ai l'impression que une certaine pile, très rapidement, dans n'importe quel endroit du monde, une certaine pile de livres, ça peut faire maison.
Oui, je pense que ça fait maison. Ouais. Je crois que ce que j'ai toujours pris avec moi dans les nombreux déménagements que j'ai fait depuis que je vis à Paris, depuis 88, où je suis arrivé lorsque j'avais 18 ans. Les premières choses que j'ai accumulées à l'époque, c'était plutôt des disques et des livres. Et maintenant, les disques, bon, je sais plus où ils sont, hein, je sais pas, je les ai perdus. Hein, tous les CD, quoi, qu'on avait des murs entiers de CD, je sais même pas où ils sont passés, quoi. Mais les livres, j'ai quand même pris soin tout le temps des livres, je les ai transportés d'un endroit à un autre. Et si j'avais que ça, j'avais déjà ça, ça me suffisait déjà, ça faisait maison. Et bien souvent, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que ça, quoi, mais une pile de livres à côté d'un matelas par terre, bon, ça... Et bien sûr, je suis musicien, j'avais toujours une guitare, j'avais toujours...
De quoi être chez soi.
Voilà, ça suffisait déjà, quand même. On est seul, j'entends.
Parmi les livres étapes pour visiter cette bibliothèque, Bertrand Belin, vous nous avez parlé d'un livre d'Olivier Cadio.
Je suis tombé ça par hasard, c'était un truc qui traînait après mes études de lettres. Et que j'ai retrouvé comme ça dans un tiroir, et j'ai ouvert le livre, et j'ai eu véritablement, oui, une épiphanie, vraiment un choc émotionnel. Je me suis dit, les exemples de grammaire, enfin, qui sont pas là, qui sont pas faits pour être lus, qui aurait envie de lire un livre de grammaire? C'est le dernier livre qu'on lirait, on lit pas le bon usage de Grévis le soir en se couchant, enfin, à moins d'être très, très, très je vais avoir une vie très particulière, un rapport à la langue très particulier. Donc c'est la première fois que je l'ai lu et ça tisse une histoire, étrangement, une histoire une histoire poétique. La grammaire, si on la lit attentivement, on se rend compte qu'elle est souvent tragique. Souvent, le héros s'en va et ne revient jamais. Et bizarrement, quand je tombe là-dessus, je me mets presque à pleurer parce que je me dis, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherchais. J'étais pas si sous l'influence que je n'ai pu l'être après de Gertrude Stein ou de la poésie américaine, tant que ça. Mais j'ai trouvé là une espèce de fraîcheur émotionnelle tellement forte que ça m'a réouvert entièrement. J'ai eu l'impression de passer à travers un sablier par le tout petit chat d'une aiguille. Et j'avais l'impression que mon travail était, dans ces années-là, j'étais très jeune, hein, mais était déjà un peu usé parce qu'il s'appuyait sur des maîtres, comme toujours, on fait ses classes quand on est jeune. Et je n'avais pas trouvé ma voix littéralement. Enfin, et là, d'un coup, et j'ai passé après des années à découper les grammaires avec un cutter. Il faut être un petit peu fou pour faire ça.
C'est Olivier Cadio en mars 2023 au micro de Manu Farine sur France Culture qui parlait à l'occasion de la reparution en poche de l'art poétique. L'art poétique, Bertrand Belin, c'est un des livres étapes de la visite de cette bibliothèque.
Oui, c'est l'édition là dont il est question, dont vous venez de parler, la réédition en poche. Alors, j'avais lu de nombreux livres d'Olivier Cadio plus paru après celui-là, mais celui-ci j'avais jamais eu dans les mains. Je connaissais à la fois l'existence et la mythologie, enfin l'aura, enfin, mais je l'avais jamais eu dans les mains. Et puis j'avais jamais fait l'expérience. Il y a pas longtemps, j'en ai fait l'expérience, enfin quelques mois quand même, déjà maintenant.
Donc c'est des grammaires découpées,
oui,
qui sont
ça.
Réagencées par Olivier Cadio,
oui,
qui forment des textes.
Qui forment des textes que je vais vous lire un petit morceau. Ouais. Comme ça, on va se rendre compte. C'est la trouée, c'est la dimension, comment dire, qui fait que ces outils de langue ne soient pas taillés pour le récit. Ça crée en effet des trouées qui sont vertigineuses et qu'on remplit comme ça avec notre propre expérience et qui forment des beautés. Et Pierre qui n'est pas là. Le bleu, c'est ce qui me va le mieux. Vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Tout le monde stupéfait. Oh ! Pourquoi n'aurais-je pas votre fille ? Car vous n'êtes pas gentilhomme. Ah, je ne savais pas. Tous étonnés. Oh ! Je n'ai d'autre désir que de vous être utile. Ah, que c'est beau. Là, ça c'est un exemple. Ça se poursuit, bien sûr, hein.
Est-ce que tout est drôle ? Parce qu'on entendait,
tout
on
n'est
l'entendait
pas drôle,
dire
c'est tragique.
Qu'il y avait du tragique.
Oui, bah là c'est tragique. Il y a une histoire d'histoire d'amour qui va pas se faire. Et Pierre qui n'est pas là, quoi. Les passagers ont embarqué. Le navire a embarqué les passagers. Enfin, la forme passive et la forme active, quoi. Le ciel noircit. Les nuages noircissent le ciel. Le malade est perdu. Le sac est perdu par ma fille. La mère est agitée. Pierre retrouvant ou retrouvant ce qu'il cherchait, Pierre est heureux. Voilà, bon, là.
Est-ce que vous vous souvenez, vous, évidemment, là, c'est quand même une retraversée de Cadio dans ses livres de grammaire, là, où il dit « Enfin, j'ai trouvé ce que je cherchais ». Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette dimension-là de la langue, là, quand on comprend qu'il y a des règles, qu'on ne les maîtrise pas toujours, mais qu'en même temps, il y a aussi une mathématique du langage qui a une beauté à ça. Vous vous souvenez d'avoir eu ces sensations-là, de les découvrir ?
Oui, je me souviens avoir... lorsque j'ai découvert... C'est en apprenant l'anglais en cinquième... en sixième, on commence l'anglais. J'avais appris l'allemand en cinquième. Enfin, j'avais appris l'allemand. J'avais des cours d'allemand, en tout cas. Et que j'ai compris en sixième, en apprenant une langue étrangère, ce qui finalement, ça va vous paraître très étrange, mais ce qui appartenait au champ de l'orthographe, ce qui appartenait au champ de la conjugaison, de la grammaire, de la syntaxe. Enfin,
moi j'en ai un souvenir très précis aussi.
Et ça m'a fait comprendre quels sont les ensembles, comme dans les mathématiques, les ensembles, quelles sont les forces à mettre en machinerie, comme ça, pour que ça marche, quoi. Ça, je me souviens très bien de ça. Et donc, c'est passé par la langue, par une langue étrangère, curieusement. Je sais pas pourquoi. Avant, quand on me dit, je sais pas, je comprenais pas. Aujourd'hui, c'est conjugaison. Et le lendemain, aujourd'hui, c'est orthographe. Je voyais pas trop la différence. Parce que dans la conjugaison des verbes, bien sûr, il fallait quand même choisir si on mettait cette lettre plutôt qu'une autre à la fin du verbe ou du participe, ou j'en sais rien. Donc, je comprenais pas, en fait, ce qui séparait le mercredi du jeudi à cette époque-là, quoi.
Alors qu'il y a là toute la mécanique de la langue et qu'à un moment donné on en saisit, enfin en tout cas moi je me souviens que c'était très proche, c'est marrant que vous parliez des ensembles, mais que c'était très proche du jour où j'ai compris qu'il y avait un ensemble des dizaines, un ensemble des centaines.
Oui, oui c'est ça, c'est des ensembles, oui. Et aujourd'hui encore, ça me fascine et je suis encore un élève débutant par rapport à tout ça. Et comme disait Olivier Cadio dans l'archive qu'on a entendu, les gens qui ouvrent Grévis, je ne sais pas quel livre de grammaire, de conjugaison le soir pour voir un peu ce qui s'y passe, moi je fais encore ça, hein, assez souvent. Hein. Assez souvent je fais ça. J'aime beaucoup les dictionnaires, j'aime beaucoup les méthodes, les livres scolaires, j'aime beaucoup. Dans toutes les langues d'ailleurs, hein. Des fois j'ai essayé d'apprendre des langues étrangères tout seul, ce qui n'a jamais réussi vraiment, mais comme ça, ça m'intéressait. Mais Cadio, il y a un autre exemple que j'avais envie de vous dire, parce qu'il est très court, mais il est très marrant, puis il met en scène aussi un petit peu les rapports d'équivalence qu'on trouve en mathématiques aussi. Tu as compris, oui ? Égal. Tu as compris, non ? C'est quand même drôle, non ? Tu as compris, oui ? Tu as compris, non ? Donc on peut utiliser oui et non pour dire la même chose, ce qui est quand même c'est des cas de figure.
Exactement,
quoi.
Il peut ouvrir une très très longue discussion. Vous parlez d'une langue étrangère, parmi les livres étapes, il y en a un de Natalia Ginzburg, poétesse juive communiste antifasciste, c'est Les Petites Vertus, c'est un livre de 1964 dans sa traduction française en tout cas.
Oui.
Pourquoi ce livre-là ? Déjà il est très très beau.
Il est beau, c'est une belle édition,
ouais. Hein,
et puis bon éditeur. Il m'a été offert par une amie musicienne.
Il vit où dans votre maison ce livre-là d'habitude ?
Ah bah là il est
devant. Il est à portée de main.
Il est à portée de main. Ouais, de main. Je l'ai relu pour venir vous voir ce week-end. Je l'avais lu lorsqu'il m'avait été offert. Et je dois dire j'ai aussi un peu apporté pour ça, ce qu'il m'a été offert en partie pour la raison que j'avais dit à cette personne qui s'appelle Claire Vaillé, musicienne, que j'avais trop peu lu d'autrice et que sans que j'y ai pris garde moi-même, il fallait que je constate que ma bibliothèque était quand même un peu désertée de ce point de vue. Ce qui a fait que le lendemain même, j'avais ce livre.
Dites à vos amis, dites à vos à
oui,
vos,
mais c'est pour
à
ça
à
que je l'ai
amené,
parce
vous,
que voilà,
voilà.
Faut qu'on se lève un petit peu la tête de la litière
de temps
en temps, quoi.
Des autrices.
Voilà. Il y a un petit texte au début d'Italo Calvino que j'aime beaucoup aussi, qui présente cet ouvrage en disant à travers ses romans, les lecteurs ont connu Natalia Ginzburg comme une écrivaine toute de faits, de choses, de gestes, de voix et de cadences. Si certains s'attendent aujourd'hui dans ce livre de mémoire et de réflexion à l'avoir enfin cédé au lyrisme et à l'introspection, ils seront étonnés de la retrouver plus que jamais fidèle à elle-même, tout en concrétude, tout en personnification, tout en ressenti physique et des expériences morales, restant toujours narratrice, même quand elle énonce une pensée générale ou un jugement sur l'existence. Et je voulais lire un tout petit bout de début de ces nouvelles, ou en tout cas texte bref, du livre Les Petites Vertus, qui est également le titre d'un texte bref de la fin du livre. Ça s'appelle Les Chaussures Trouées. J'ai des chaussures trouées et l'amie avec laquelle je vis en ce moment a, elle aussi, des chaussures trouées. Vivant ensemble, nous parlons souvent de chaussures. Si je lui parle du jour où je deviendrai une vieille écrivaine célèbre, elle me demande immédiatement « Quelles chaussures auras-tu ?» Alors je lui dis que j'aurai des chaussures en daim avec une grande boucle d'or sur le côté. J'appartiens à une famille où tous ont des chaussures solides et en bon état. Ma mère a même dû faire une petite armoire exprès pour les ranger tant elle en avait de paire. Lorsque je reviens chez eux, ils hurlent d'indignation et de chagrin à la vue de mes chaussures. Mais moi, je sais que l'on peut vivre même avec des chaussures trouées. Pendant l'occupation allemande, j'étais seul ici à Rome et je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Si je les avais données au cordonnier, j'aurais dû rester au lit 2 ou 3 jours, ce qui m'était impossible. C'est pour ça que j'ai continué à les porter. Et en outre, il pleuvait. Je sentais qu'elle se défaisait lentement, devenait molle et informe, et je sentais le froid du pavé sous la plante des pieds. C'est pour ça que même maintenant, j'ai toujours des chaussures trouées parce que je me souviens de celle-là. Et qu'en comparaison, elle ne semble pas tellement trouée. Et si j'ai de l'argent, je préfère le dépenser autrement parce que les chaussures ne me paraissent pas plus, paraissent plus quelque chose de si indispensable. J'avais été gâté dans ma jeunesse, toujours entouré d'une affection tendre et vigilante, mais pendant cette année-là, à Rome, sous l'occupation, je fus seul pour la première fois, et c'est pour cette raison que Rome m'est chère, bien que lourde d'événements pour moi, lourde de souvenirs angoissés avec peu d'heures douces. Mon amie, elle aussi, a des chaussures trouées, et c'est pour ça que nous entendons bien. Mon amie n'a personne qui lui fasse des reproches pour les chaussures qu'elle porte, et elle n'a qu'un frère qui vit à la campagne et qui circule avec des bottes de chasseur. Elle et moi savons ce qui arrive lorsqu'il pleut, et que les jambes sont nues et mouillées, et que l'eau entre dans les chaussures, et qu'alors il se produit ce petit bruit à chaque pas, une sorte de clapotis.
C'est beau.
C'est beau, hein.
Est-ce que vous y avez, parce que vous avez commencé par dire que vous l'aviez apporté, parce qu'une amie, vous l'avez offert, pour que vous puissiez lire aussi des livres de femmes, écrits par des femmes. Est-ce que vous y avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez eu la sensation de lire un livre écrit par une écrivaine ou une poétesse? Ou pas?
Non, pas dans la matérialité,
pas dans ce qui est écrit.
Non, pas dans ce qui est écrit. Pas en tout cas dans le style ou la manière ou que sais-je. Non. Par contre, dans l'expérience, oui, bien sûr, il y a des choses. Là, j'ai lu ce fragment, mais il y en a beaucoup d'autres où, en effet, les conditions matérielles d'existence pour une femme qui écrit des livres lui incombent un certain nombre de défis et de tâches, en particulier en tant que femme, la distance que ça implique à prendre avec le travail d'écrivain que d'écrivaine, quoi. Donc ça en particulier, mais on trouve ça aussi ce que Italo Calvino disait à propos de sa façon d'aborder le concret de l'existence. On le trouve aussi dans la prose de Lucia Berlin, c'est pareil aussi.
C'est un autre livre que vous vouliez évoquer, il s'appelle Un soir au paradis.
Oui.
Je vous le tends, vous avez votre exemplaire.
J'en ai un de poche. Voilà, tout à l'heure, je vous disais que j'étais parti au Nouveau-Mexique avant-hier.
Pour de vrai, mais par les pages.
Ouais, par les pages. Bah, c'était dans un texte de Lucia Berlin. Parce que c'est une écrivaine qui n'a pas été tellement célèbre de son vivant. Mais,
comment vous l'avez découverte?
C'est une personne que j'admire qui s'appelle Patricia Mazui, réalisatrice, cinéaste, qui m'a parlé d'elle. Et je suis immédiatement allé chercher ce livre.
Vous me disiez que vous ne l'aviez pas filmé, que vous vouliez en parler.
Bah oui, parce que je ne sais pas pourquoi on fait seulement que découvrir cette écrivaine. Ça paraît insensé, quoi. Donc voilà, c'est une façon, je dis, on est à la radio, ben voilà, ça y est, maintenant on commence, il faut y aller, il faut faire des remous, c'est peu de choses, je sais bien, mais quand même, je voulais qu'il
soit là. Est-ce que vous voulez en lire un tout petit extrait?
Oui, avec plaisir. La maison avait une centaine d'années, elle avait des angles arrondis, adoucis par le vent, et était du même brin soutenu que la terre dure des environs. Il y avait d'autres constructions sur la propriété, un corral, des latrines, un poulailler, une case en adobe près du mur exposé au sud de la maison principale, sans toit de zinc comme la grande maison, lisse et symétrique. Elle semblait avoir poussé sur place, tel un champignon poussiéreux. 4 arpents laissés à l'abandon, 20 pommiers sur le point de fleurir, des épis de maïs séchés, une charrue manuelle rouillée, un moteur courbé, c'était posé là, dans l'herbe, près d'une pompe rouge. Et l'eau jaillit de cette pompe quand Paul l'actionna. La plupart des fenêtres étaient cassées, la porte était entrouverte. À l'intérieur, c'était frais, sombre et ça sentait le pignon, le cèdre. Une autre odeur piquante provenait d'un rideau constitué de baies d'eucalyptus et de perles rouges. Écho, une enveloppe décolorée sur le poussiéreux plancher de pin. Solidago contre la colique, dans un bocal jaune. Paul prit Max, le bébé, dans ses bras et s'installa dans l'encoignure d'une fenêtre. Ces murs font 1 mètre d'épaisseur, c'est génial cette maison. Je pourrais jouer du piano aussi fort que je veux, les gosses pourraient s'amuser dehors sans qu'on s'inquiète à cause des voitures. Et quelle vue, quoi. Viens voir les Sandias d'ici. C'est très beau qu'on vint à Maya, mais il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Ben, on pourrait installer des sanitaires, c'est facile. On n'a jamais eu l'électricité dans notre chalet à Truro, c'était quand même, quand j'étais enfant, c'était comme ça. Mais faire la cuisine dans ce vieux fourneau, vraiment. Voilà. À cela se bornèrent ses objections, etc., etc. «
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Bertrand Belin. Marie Richeux.
Alors, je ne sais pas s'il y a vos livres chez vous, dans vos piles de livres, Bertrand Belin, mais moi je les ai avec moi, du coup je vais les dire. C'est bien quand même d'avoir ses propres livres au milieu des livres des autres.
Ben oui, c'est bizarre. J'en ai un que je tolère parce qu'il est tout sale, à force de l'avoir pris pour aller faire des lectures ici et là, il est tout sale, tout abîmé dans un coin, mais sinon non, j'ai pas de livre de moi chez moi. Non.
Ah oui.
Non.
Donc il y a Requin, c'est Requin que vous avez ?
C'est Requin que j'ai, ouais.
Et Vrac, il n'est pas chez vous ?
Non, j'ai pas chez moi. Si je cherche dans mon sac de voyage ou dans une valise quelque part, je vais le trouver parce que je sais que j'en ai. Hein. J'en ai un ou deux parce que je les utilise parfois pour des lectures ou pour des performances ou des choses comme ça, que ce soit l'un ou l'autre. Mais je les vois pas en tout cas. Ils sont pas à ma vue, quoi. Non, non. Mais c'est arrivé parfois de les trouver. Littoral, j'ai un petit exemplaire de Littoral. Je sais pas où il est, mais. Il est un peu caché, je pense que je le cache. Parce que à chaque fois, quand je le vois, tous les six mois ou un truc comme ça, quand je tombe dessus, il m'arrive parfois de le prendre puis de le feuilleter pour, je sais pas ce qu'on cherche dans ces cas-là. C'est jamais une expérience formidable.
Il y a un livre qui m'a beaucoup intrigué dans la préparation de cette bibliothèque. C'est un livre mystérieux de Christian Costa. Je crois que à la fois c'est l'histoire autour du livre qui m'a autant intrigué que le livre. Donc c'est un livre paru en 1989 aux éditions Minuit. Il s'appelle L'été deux fois. Il y a un personnage qui s'appelle Bose,
oui.
Qui a envie de commencer quelque chose, qui ne commence pas complètement.
Oui.
Et c'est un livre qui est connu de petit circuit de lecteurs, manifestement. J'en sais pas beaucoup plus, Bertrand Belin.
Voilà, moi non plus, parce qu'il m'a été présenté comme ça, ce livre. Il m'a dit « Connais-tu l'été deux fois ?» de Christian Costa. J'ai dit non. Alexandre Fillon m'avait posé cette question en me remettant un exemplaire. Je ne connaissais pas cet auteur et on m'a dit « Tu vas voir, c'est un livre tout à fait méconnu, mais formidable. C'est le seul livre de cet auteur. » Donc il y avait déjà
tout un
mystère qui planait autour de cette chose. Si bien que j'étais préparé à la lecture de ce livre par ses avant-propos. Quoi. Donc c'est pas rien. Tous les livres n'ont pas la chance d'être présentés de cette
comme
façon.
Ça, ouais, c'est clair.
Mais c'est vrai que j'ai immédiatement beaucoup aimé ce livre. Je l'ai moi-même prêté sous contrat à des copains, quoi.
Le contrat, c'est tu me le rends ?
Ah oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Parce que justement, il est rare quand même. C'est un livre très étonnant. Il a une tonalité. Alors, il y a des choses pour lesquelles il me plaît particulièrement, en dehors de ces questions de mystère qu'on a évoquées. C'est que c'est un livre dont l'action se déroule sur le littoral, en bord de mer, l'été. C'est certainement pas fondamental d'un point de vue littéraire, mais pour moi, comment ça peut accrocher mon souvenir, c'est important parce que j'ai grandi moi-même au bord de la mer et que je connais l'univers balnéaire très bien. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais de par mon cœur et par les vibrations que j'ai encore dans le corps de ces expériences-là.
C'est marrant, vous dites plus balnéaire que marin, l'univers plus balnéaire.
Ah bah oui,
marin.
Parce que là c'est ça, parce que là c'est moi j'ai grandi dans une station balnéaire. Hein. Il y avait un port de pêche et la pêche et la plaisance, etc. En particulier la pêche, j'y suis familier aussi parce que j'ai dans ma famille des pêcheurs, mais là, moi j'ai surtout connu la vie balnéaire, les sports nautiques, l'arrivée des touristes, les tentes de plage, les jeux de plage, les ballons qui tombent, la poussière, le sable dans les yeux, les baignades. balade, enfin la plage qui devient déserte à 19h, enfin voilà, cette ambiance-là, puis l'arrière-saison, là, comme on trouve dans des pages célèbres de Gracq, je sais plus, Un beau ténébreux peut-être, je sais plus dans quel livre, il y a comme ça cette arrière-saison qui n'en finit pas, le mois de septembre qui arrive, les touristes sont partis, mais les locaux continuent à avoir un peu ce rapport balnéaire avec la plage, quelque chose qui s'engourdit doucement, et donc il y a une torpeur, ça j'aime beaucoup, mais surtout ce qui est beau, c'est qu'il y a c'est truffé d'inventions, de beauté.
Alors pourquoi elle a été deux fois ?
Parce que c'est l'enchâssement de deux récits qui se déroulent l'été. Enfin, c'est peut-être pas la seule raison, mais il y a deux récits. Il y a celui de Boz qui vit avec une femme et leur enfant, et qui manifestement s'apprête à faire quelque chose qui en est au balbutiement, au commencement. Il va commencer. As-tu commencé ? Lui demande son épouse. Je suis en train, ou pas encore, mais c'est imminent. Commencer, alors ça résonne pour les lecteurs ou les gens qui ont un peu affaire avec l'écriture. Ça résonne, bien sûr, c'est un commencement reporté dont on est familier parfois, hein, quand on fabrique des formes. Je ferai demain, ça commencera demain, l'inspiration viendra demain. Qu'est-ce que c'est l'inspiration ? Non, en fait, non, il faut que je travaille. En fait, hein, j'ai pas le temps. S'il n'y a pas tout ce bruit, ça fait longtemps que j'aurais fait un premier chapitre, etc. Donc on conclura plus que. Il s'agit peut-être de la mise en écriture d'un projet littéraire. Et donc il y a Boz qui est sur le point de démarrer quelque chose. Cependant, il va le matin boire un thé à la menthe au bistrot, après il va à la plage, et puis il fait pas grand-chose d'autre. Et puis s'enchasse dans ce récit-là un autre qui raconte comment Boz accompagne un de ses amis qui souffre, qui est malade un peu du cœur, quelque chose qui va pas bien. Il l'amène à l'hôpital où on va s'apercevoir que c'est grave et il va rester là-bas jusqu'à s'éteindre. Et ça, c'est un autre été, donc cet été deux fois. On peut en tirer les conclusions qu'on veut, parce que la porosité entre ces deux récits ne se manifeste pas par des explications claires. C'est une déduction qu'on peut faire, ça nous est offert, quoi, cette superposition. Mais c'est fait avec tellement de beauté, de délicatesse, d'invention.
On en lit un extrait. Absolument. Il est sous la petite pile, il est tout sous Bulgakov.
Oui. Ah, pardon, j'ai perdu le...
Ça me permet de dire que cet auteur-là, sauf si ça a changé depuis, il n'a pas été retrouvé, non ? Il est né à Béziers en 1954.
Oui.
D'aucuns ont promis une réédition en poche, puis chercher l'auteur, puis pas retrouver l'auteur. Puis... Vous souriez, vous en savez davantage.
J'en sais pas beaucoup, mais l'auteur n'a pas disparu complètement de la surface de la Terre, puisque j'ai la chance d'avoir moi-même, par celui qui s'appelle Guillaume Daban, qui m'a adressé depuis... chez lui, un exemplaire dédicacé de l'auteur.
Ah, j'adore cette histoire.
Et alors, j'ai là l'exemplaire dédicacé de l'auteur, mais je pourrais pas vous en dire plus. Il ne semble pas qu'il le souhaite, d'abord. Puis voilà, puis il est là, puis le livre est là, puis les choses sont là, quoi. Les choses sont là. D'ailleurs, le livre s'achève par une phrase que vous aurez peut-être la chance de lire et qui vous expliquera bien des choses. Mais... Ah ouais, c'est ça. Ouais. Aucune vague ne plisse la mer. Les bras croisés, Boz, de l'eau à mi-cuisse, devise avec madame, trempée jusqu'à la taille, fesses et membres inférieurs en totalité. Le niveau de la mer n'est pas en cause, un écart de 20 cm sépare Boz et madame, question de taille, tout simplement. Madame reprend le sujet des familles, une fois de plus, du doigt, Boz caresse la surface de l'eau, immobile. Il fléchit les genoux, s'immerge jusqu'aux épaules, lentement, batracien ou lotus aquatique. Il observe. C'est un effet classique de réverbération. Qu'à la parfaite rectitude de la ligne de flottaison, répond l'ébriété tranquille des formes sur la plage. Une imbibition d'aquarelle, un tremblement. Noyade, pense-t-il. Monde buvard. Il allonge ses jambes et progresse par reptation en appui sur les mains. L'eau vient chatouiller ses narines, une colonie de petites bulles se forme, court à la surface, éclate plus loin, sans ordre ni cicatrice, sans aucun bruit. La tête glisse, un O se dessine au sommet de son crâne, dont le diamètre... s'étrécit peu à peu, disparaît, il retient son souffle. Pendant quelques secondes, il n'entend plus ce que dit madame, les mots à ses côtés. Le revoilà, il rejette de l'eau par la bouche, une giclée. Mademoiselle, qui les a rejoints avec ses palmes et son masque, veut pêcher des couteaux. Elle demande le moyen de les reconnaître au fond de la mer, et Boz dit « deux trous dans le sable, comme deux yeux ». Mademoiselle, tout en tâtonnant sur la lanière de caoutchouc pour trouver le cran adapté à son tour de tête, bute sur le mot « étanchéité. Difficile, dit-elle, à prononcer. Et Bose l'aide pour le mot et le masque. Il pose trois doigts sur la lunette ovale, détache une à une chaque syllabe, engage par son extrémité la languette dans le passant, serre la boucle, accentue la pénultième. Étanchéité.
C'est marrant parce que la manière dont vous lisez ce texte de Christian Costa, Bertrand Belin, me fait penser à ce que vous disiez de votre découverte de Christophe Tarkos et l'idée des mots matériels aussi, des mots qui ont de la place dans la bouche, qui ont des formes que peut-être on peine à attraper comme des trucs, vraiment.
Oui, c'est vrai. Alors là, il y a plein de choses. Il utilise une lettre, par exemple, quand il dit que sa tête disparaît sous l'eau et puis qu'au sommet de son crâne, ça forme un O qui devient de plus en plus petit, un petit O. Qui vient disparaître, puis la façon dont il vient mêler ce qui est de l'ordre de la linguistique à ce qui est de l'ordre de la plongée sous-marine, quand il appuie sur le masque tout en détachant les syllabes, appuyer sur le masque en détachant les syllabes, étanchéité.
Et il l'a aidé pour le masque et pour le mot.
Voilà, l'aide pour le masque et pour le mot. C'est vrai qu'on peut rêver. Il nous permet de rêver aussi cet écrivain du fait que on n'a pas lu d'autres livres de lui et que ça a tout l'air aussi d'un peu d'une performance, quelque chose à l'échelle d'une vie entière d'écrire un livre qui est un chef-d'œuvre comme celui-là et ne pas réitérer quoi. Quand on sait que le livre dans les années 80 s'interrompt par n'ajoutez rien, c'est chevaleresque quoi.
Il nous reste quelques minutes et vous avez deux énormes livres à évoquer.
Merci d'avoir gardé la fin pour qu'on ait plus beaucoup de temps parce que je pourrais pas. Je les ai pris parce qu'ils étaient trop gros. Je les ai choisis parce que justement, c'est des livres qui sont trop gros pour moi.
On va déjà dire leur nom, comme ça fera. Voilà,
par
on les place au-dessus de la pile. Il y a la Divine Comédie.
Oui, il y a la Divine Comédie. De Dante. Et puis il y a.
Le Maître et Marguerite.
Le Maître et Marguerite.
Mikhail Bulgakov.
Oui. Bon, écoutez, que dire, sinon c'est vrai que d'abord je voulais signaler que ça vous arrive peut-être, chères auditrices et auditeurs, et à vous-même, de croire ou d'avoir une idée, parfois même assez élaborée, de ce que contient un livre, pour en avoir entendu parler depuis 10 ans, 20 ans parfois. Vous n'avez pas vu, mais oui, Moby Dick, ça va, j'ai une idée, je vois à peu près de quoi il en retourne. Le Maître et Marguerite, c'est pareil, je vois à peu près de quoi il en retourne. D'accord, un écrivain russe qui écrit sous le manteau parce qu'il y a censure, etc. Il y a plein de choses, on peut imaginer des tas de choses, mais en fait, quand on ouvre Le Maître et Marguerite avec tous ces présupposés, on s'aperçoit qu'on s'est complètement trompé, que c'est pas ça l'expérience qu'on va faire, et que c'est une expérience inouïe, qui est beaucoup plus puissante, folle, inattendue, fraîche, nouvelle, jamais égalée. Enfin, c'est vraiment un événement de découvrir ce texte. Moi, ça m'a complètement terrassé. Et que dire? Parce qu'il y a énormément d'inventions, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que on pourra dire ça aussi de Dante, avec tout ce qui les différencie, bien sûr, mais ce qui les rapproche, c'est l'engagement de toute une vie dans l'écrit. Fabriquer des cathédrales comme ça, d'encre, parfois à la bougie, sûrement à la bougie pour certains, au moins un d'entre eux, et parfois sûrement aussi à la bougie pour l'autre, le plus récent, dans les périodes les plus difficiles. Voilà, ou alors on est avec Ponce Pilate, on est avec tout à coup, enfin le surnaturel, le récit politique, le récit philosophique.
Est-ce que ça veut dire que pour l'un et pour l'autre, il se trouve le hasard les fait se réunir en cette fin d'émission consacrée à la bibliothèque, Bertrand Belin, mais qu'il a fallu dépasser l'idée que vous faisiez des deux titres, l'idée que vous faisiez du Maître et Marguerite et l'idée que vous faisiez de la Divine Comédie pour entrer dedans?
C'est-à-dire simplement pour l'ouvrir, parce que d'abord ce sont des volumes importants, hein. La Divine Comédie c'est aussi un volume important, il y a de la lecture, les éditions sont souvent, comme celles que j'ai sous les yeux, elles sont augmentées de beaucoup de notes de page, on voudrait pouvoir l'embrasser complètement, c'est-à-dire y consacrer plusieurs mois, plusieurs années, quoi. C'est pour ça qu'on le fait pas, parce qu'on dit quand j'aurai un an libre, je lirai une comédie pour comprendre vraiment tout ce que Dante y a mis, parce qu'il il a mis tellement de choses, quoi, tellement de la vie, de l'histoire, de sa connaissance des textes religieux, bibliques, de la vie politique de son époque.
Si on en lit quelques, un tout petit passage pour se dire au revoir.
Oui, oui, oui. Alors, je voudrais lire, parce qu'on connaît souvent la Divine Comédie par l'enfer, en général, parce qu'on a une délectation pour la chose qui fâche, donc on se lance dans la Divine Comédie, on passe un bon moment en enfer parce qu'on voit des choses horribles et ça nous divertit peut-être, ça nous fait plaisir.
Mais
après, il y a le purgatoire, puis le paradis. Peut-être tous les lecteurs ne vont pas jusqu'au paradis, ou alors d'une façon où on a perdu un petit peu l'énergie en cours de route, ou j'en sais rien. En tout cas, on entend souvent parler de l'enfer, de Dante, mais du paradis de Dante, on entend moins parler. On arrive au paradis, quoi. Qui fit s'émerveiller Neptune à voir l'ombre d'Argo. Ainsi, mon âme, tout en suspens, regardait fixement, immobile, attentive, et s'enflammait sans cesse à regarder encore. À cette lumière, on devient tel que se détourner d'elle pour une autre vision est impossible à jamais consentir. Puisque le bien, qui est seul objet du vouloir, s'accueille tout en elle et hors d'elle, et est en défaut ce qui est là et parfait. Ma parole désormais sera plus courte, même au regard de ce dont j'ai mémoire, que d'un enfant qui baigne encore sa langue au sein. Non pas que plus d'une seule apparence fût enclose dans la lumière que je voyais, car elle est toujours telle qu'elle était alors, mais pour la vue qui gagnait en valeur, en moi qui regardais, d'une seule apparence, tandis que je changeais, pour moi se transmuait. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, trois cercles m'apparurent, de trois couleurs et de grandeur unique. Et l'un par l'autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi, et le troisième semblait un feu, qui d'ici et de là pareillement respire. Oh, comme le dire est faible, et qu'il est court à ma pensée, si court devant ce que je vis. Que dire peu ne suffit pas. Ô lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense et par toi, entendu et t'entendant, ris à toi-même et t'aime, ce cercle ainsi conçu qui semblait en toi lumière réfléchie, longuement contemplée par mes yeux, à l'intérieur de soi, de sa même couleur, me sembla peint de notre image, si bien que mon regard était tout en elle. Tel est le géomètre attaché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. Tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je laisse la dernière strophe du chant à découvrir. C'est difficile à lire, pardonnez-moi pour le début qui était un petit peu plus chaotique. Mais voilà, quand on lit ça assis dans son fauteuil, tout à coup, les mots fabriquent un tissu, quoi. Fabriquent une étoffe d'or. C'est le spectacle de la lumière, voilà, la fin du voyage, le paradis, quoi. Ça se manifeste par l'expérience même de la lecture. En fait, on fait cette expérience-là par la lecture, par la fatigue de la lecture, par la complication de la prose, par des tas de raisons qui se trouvent là sur la page. On fait cette expérience de l'inouï, quoi. Et c'est ça l'expérience du paradis, manifestement telle qu'elle est envisagée par Dante, quoi.
Merci voilà. Beaucoup, Bertrand Belin.
Merci.
On sort de votre bibliothèque.
Pas pero mírate, no pienses más, na que pensar, tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuara, te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. So good.
Toutes les références de lecture, de musique et d'archives évoquées avec Bertrand Belin seront à retrouver sur la page des bibliothèques du Book Club via franceculture.fr ou l'appli Radio France.
Au son, c'était Élise Le, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à tout le reste de l'équipe du Book Club qui pense et prépare ces émissions avec moi. Alexandre Alaïbegovitch, Jeanne Léos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman et Léa Weisskruss.
Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. Bébete quiero comer. Ya, ya, ya te quiero hacer hentai. Ya te quiero hacer hentai. Ya te quiero hacer hentai. Hacer